France Inter.
Bonjour Éric Delvaux. Eh bien oui, il s'agit d'une femme élue avant tout par la nature dans le joli parc naturel régional des Bauges entre la Savoie et la Haute-Savoie. On vous retrouve à 19h. Bon après-midi Éric.
Moi je ne suis pas un paysan, moi. Je suis un gestionnaire. Et pour te la gestionner, je te l'ai gestionné, la nature, pas chez moi.
CO2, mon amour.
Pour les voir, mes 400 tétards, comme c'est propre, c'est nickel. Y a plus rien. Ah ouais, il y avait les sauterelles, les coccinelles, les escargottes. Ces petites saloperies, là, aujourd'hui, y a plus rien.
Avec Denis Chessou.
Y a plus une herbe, plus un animal, rien. Avec le zéro sur 3000. Ah, ça te nettoie tout.
Sur France Inter.
Un petit coup de Didier Bénureau, ça ne peut jamais faire de mal et c'est toujours d'actualité. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans CO2 Mon Amour, la nature qui chuchote à vos oreilles, avec Philippe Duclos qui nous accompagne à la technique, notre collaboratrice c'est Camille Blanès et Xavier Pestugia, oui, réalise l'émission. Il commence par une petite humeur. 3 milliards d'euros. Qu'est-ce qui peut rapporter autant de fraîches? Le trafic de drogue, le loto, le chichon, les jeux en ligne, l'or, le pétrole. Oh là là, recyclez-vous, vous n'y êtes pas. Accrochez-vous au rocher, le courant est très fort. C'est le trafic d'anguilles. Et tant qu'il en restera, ben on les prendra. Selon le principe devenu dogme, on peut tout rafler. Truffes, ortolans, alouettes, esturgeons, oursins, civelles, on raflera. Mafia internationale prête à sauter sur tout ce qui bouge pour faire chauffer la braise. Pauvre gabelou devenu douanier, eh ben t'as pas fini d'en voir. L'imagination est comme l'océan, sans limite et toujours aussi brutale. On connaissait le goût immodéré de la partie asiatique de l'humanité pour tout ce qui touche aux produits de la mer, comme aussi la virilité éternelle par saint rhinocéros. Alors là, en fait, il ne s'agit pas de bateaux usines hein, qui ravagent les grands fonds, mais d'un gigantesque aspirateur à poissons migrateurs. Les anguilles sont à l'honneur. Ce migrateur, d'ailleurs, est génial. Elle traversera différents taux de salinité, elle est amphialin, elle se reproduit en mer et est thalassotoque, elle est aussi catadrome, car après une période de croissance dans un cours d'eau, elle regagne la mer. Bon, là j'ai l'impression de frimer, mais en fait j'ai appris ces trois mots de mon ami Gilles Boeuf il y a trois jours. Et en me disant que bien placé au Scrabble, ça nous fait deux anguilles qui comptent triple. Mais pour un braco, c'est bien plus que triple à 6000 euros le kilo. Notre agile anguille n'est pas encore assez fluide et glissante pour échapper aux truands. Protégée en danger d'extinction, ah oui, la belle affaire. On pêche les larves, devenues civelles sur le plateau continental. On les pêche dans les estuaires français après un long périple depuis les sargasses. Alors après, on les stocke dans des bassins clandestins et puis on les envoie par des mules se faire engraisser en Asie, vendues à prix d'or. La seule chose que ces trafiquants nuisibles auront appris des anguilles, c'est leur souplesse et leur facilité à passer entre les mailles de l'administration et qui pourtant bossent vraiment. C'est ce que nous raconte d'ailleurs le très bon reportage de Reporter, le média de l'écologie, signé Erwan Manac et Hortense Chauvin, une plongée inédite dans les rouages du plus grand trafic environnemental d'Europe avec l'Office National Antifraude et l'OFB. Alors certes, la disparition des bijoux de la couronne au Louvre a fait un peu plus de foin, et l'anguille se disait, eh ben vous voyez, on a été décimé par vos pesticides, la destruction des zones humides et les barrages. Eh bien, nos populations se sont effondrées grâce à vous, merveilleux humains, de 75% en seulement 30 ans. Je nais à 3000 mètres de profondeur, j'ai une carte magnétique pour me diriger et 70 millions d'années au compteur, excusez du peu. Il y a donc quelque chose qui cloche. Un réseau a été serré, le local de Villeneuve-Saint-Georges démantelé, 800 000 civelles ont été relâchées dans la Seine. Faisons en sorte qu'il y ait encore anguilles sous roche. Doit-on s'attendre dans les prochaines semaines à d'autres vastes coups de filet? Oh, ça, c'est un rêve d'anguille. Alors, une émission qui est loin d'un plat ultra transformé qui vous flingue la santé. Donc, ce sera comme d'hab, une émission artisanale, faite à la main, avec de bons produits récoltés au micro, sans sucre gras, sel, sans additifs. Non, ça va être le parc naturel régional des Bauges, mais surtout portrait d'une femme qui aime sa nature et qui la défend, qui s'appelle Maryse Fabre. La playlist choisie par Valentine Chédebois, bah c'était Miss June en cette fin novembre. Nous partons à Saint-François-de-Sales, nous sommes dans les Bauges.
Les Bauges, c'est un milieu préservé lui-même, parce que, en fait, avec l'école qui était un peu haut, ça a été préservé pendant longtemps. Alors, souvent, on avait une image de gens un peu reculés, un peu têtus.
Un peu arriérés, etc.
Voilà, et bien aussi, comme la Tourbière. Nos villages sont préservés, nos forêts sont préservées, nos prés sont préservés. Ça s'est fait naturellement, il n'y a pas eu besoin de loi, et c'est bien compris. Même si on a des nouveaux arrivants, ils viennent pour ça maintenant, ils viennent pour cette nature. Il n'y a pas eu de mesure de préservation, mais ça s'est fait naturellement.
Nous sommes en Savoie, sur le versant sud de la montagne du Revard. Alors Chambéry est à nos pieds, 1000 mètres plus bas. Nous sommes dans le très joli, je le disais, parc naturel régional du massif des Bauges. Alors un PNR, si vous voulez, ça n'a pas de moyens réglementaires, mais ça agrège les communes. C'est un outil de développement local, de préservation du milieu naturel, qui fédère donc des communes réunies par une entité géographique, un patrimoine, une culture locale, un paysage, et donc la nature, en tout cas on l'espère, comme bien commun. Et quelles que soient d'ailleurs les couleurs politiques des communes adhérentes. Alors son président à ce PNR des Bauges, c'est Philippe Gamin, très efficace, maire du Noyer à côté de Saint-François-de-Sales. Et Maryse Fabre, donc, y aura fait deux mandats de maire à Saint-François-de-Sales. Qu'est-ce que c'est ? Une métropole, oui, de plus de 180 habitants. Les forêts et milieux semi-naturels occupent environ 91% de l'espace. Les animaux attirés par le patronyme du saint local, François, sont en confiance. Bon, sauf les jours de chasse, mais si on veut que la forêt vive et reste équilibrée, bah faut bien manger quelques-uns parce qu'eux aussi, ils bouffent les jeunes arbres. Bon, l'enfance de notre mère a conditionné vraiment son regard sur la nature. Ça va nous parler à la fois d'hier et de demain, surtout avec cette tourbière que vous allez découvrir, celle de la Creusatte. Maryse Fabre est vice-présidente de ce PNR des Bauges. C'est une combattante de la vie et vous allez voir, portrait d'une femme de terrain qui, elle le dit elle-même, sait perdre aussi pour savoir encore mieux gagner.
Mon enfance court dans cet endroit. C'est ma mère qui m'y a conduit, j'avais à peu près 10 ans. Elle voulait revoir cet endroit où elle avait passé une partie aussi de son enfance. Et quand on est arrivé là, eh bien, on ne pouvait pas traverser la tourbière. Il y avait énormément d'eau à cette époque. Elle avait été surprise par la quantité d'eau. Et on avait parlé avec l'agriculteur dont le chalet est en face, qui venait y passer 3 mois. Et en fait, il trouvait cet endroit vraiment désagréable pour lui, parce que les vaches ne pouvaient pas...
Non, c'est pas possible.
Il ne fallait pas marcher là.
Elles n'ont pas de portance.
Elles n'avaient pas de portance, on ne pouvait rien en faire. En fait, cette tourbière, elle ne valait rien, ni pour les fourrages, ni pour rien. Mais néanmoins, ma mère m'avait dit, regarde, c'est quand même exceptionnel qu'on a ça ici. Et ça m'avait un peu émerveillée qu'elle me parle comme ça. Elle n'avait pas trop l'habitude d'exprimer ses sentiments comme ça à cette époque. Et il se trouve qu'au cours de ces années, j'avais un peu oublié l'endroit, mais j'ai eu la chance d'acheter un petit chalet à sa bordure, un peu plus loin. Et quand j'ai eu acheté ce petit chalet, il y avait la mise en route de la gestion de l'arrêté de biotope. Et j'ai voulu comprendre comment cet endroit, si secret, il n'y a personne qui vient faire un selfie ici. C'est...
Non.
Et parfois, les gens sont déçus. On parle de cette tourbière comme quelque chose de riche, comme quelque chose de merveilleux. Et quand ils arrivent, les gens ils disent, c'est ça, là ? Alors, au printemps, c'est une grande tache verte avec quelques pointes blanches. Et puis, alors maintenant, c'est fauve. Et c'est ça, là, cette tourbière.
Je vais vous dire, je trouve ça beau. Je trouve ça beau,
magnifique. Et c'est secret ?
Alors, c'est secret. C'est à la fois du passé, parce qu'il faut quand même rappeler que la production d'une tourbière, c'est à peine quelques millimètres par an. Et puis aussi, c'est de l'avenir. Voilà.
Elle nous parle de demain.
Elle nous parle de l'eau, elle nous parle de demain.
Alors, elle nous parle d'hier, parce qu'elle s'est formée par un effondrement karstique. Et ça a fait comme une espèce d'entonnoir, là, qui a été rempli par un lac il y a 12 millions d'années. Et ensuite, le lac s'est asséché, mais il a été comblé par du limon. Et ensuite, ça a comblé les trous avec de l'argile, ça a comblé tous les trous du karstique, parce que sinon, c'était un gruyère, c'était une vraie passoire. Donc comment, voilà, ça a étanché. C'est ça aussi qui fait cette particularité dans un milieu karstique, à cette altitude. On n'en trouve pas beaucoup en France, de cette dimension-là.
Elle a colmaté les trous.
Elle a colmaté les trous.
Elle s'est dit, là, après, j'ai fait mon boulot de tourbière.
C'est ça. Les dépôts se sont déposés au fond, elle a commencé à se fabriquer, il y a 5000 ans. et elle s'est complétée, remplie et compagnie de cette tourbe. Et ces buttes à sphaigne qui produisent la tourbe, elle emmagasine l'eau dans ces buttes de sphaigne. C'est incroyable, la quantité d'eau. Elle ne vit que par l'eau de pluie. Il n'y a pas de source qui l'alimente. Elle vit par l'eau de pluie, donc autant dire d'immense fragilité.
Une couche spongieuse qui atteint 10 mètres par endroit. Cette tourbière d'un très grand intérêt botanique bénéficie d'une protection réglementée depuis 1985. Elle abrite tout un tas d'espèces, lézards vivipares, grenouilles rousses, tétralyres, insectes, fleurs. Plantes capables de stocker jusqu'à 30 fois leur poids d'eau, les sphaignes.
Alors, particularité de celle-là, c'est que ce n'est pas une fleur tout à fait, c'est une mousse. Qui est vraiment, elle, caractéristique et qui est constitutive de la tourbière elle-même.
Mais c'est quoi une tourbière, en fait ?
En fait, une tourbière, c'est une zone humide un peu particulière. On voit ici, dans le milieu de cette zone humide, vraiment la partie tourbeuse de la tourbière, où on va trouver les sphaignes qui ont constitué ce milieu-là.
Et puis, moi, ce que je trouve émouvant aussi, c'est la stratégie qu'ont mis les plantes sur cette tourbière pour y vivre, la coloniser, se reproduire. Par exemple, il leur manque un élément, par exemple les droseras. Eh bien, elles ont émis des petits poils gluants, elles captent les petits insectes qui passent, et puis du coup, ça leur apporte le nutriment tranquillement. Alors, bien sûr, elle n'avait pas de valeur économique, mais tout d'un coup, elle est devenue importante, mais elle est restée dans son jus. Et en fait, ce qui l'a sauvée, c'est que justement, elle n'a jamais été exploitée, pas d'intérêt économique. Donc du coup, elle a vécu sa vie tranquille. Et avec la protection qui a été mise avec l'arrêté de biotope, elle continue tranquillement sa vie.
Alors, elle s'est dit, je ne serai pas transformée en terreau. Hein.
Voilà, on ne va pas venir me creuser, on ne va pas venir m'assécher, on ne va pas venir... Et du coup, elle nous parle justement de cette fragilité, mais en même temps de cette résilience, de cette façon de s'adapter. Elle nous parle aujourd'hui de ça. Il y a le réchauffement exact, mais il y a des stratégies qui ont été mises en place par la nature. On doit s'en imprégner, on doit être à l'écoute. Ça nous parle parce que c'est ça que l'humain doit faire. On doit s'adapter, il va falloir s'adapter et trouver des stratégies pour continuer à faire partie de cette nature. On a des leçons à apprendre de cette tourbière. C'est l'humilité et c'est émouvant pour moi.
On le rappelle toujours, mais à la fois le mot humus, le mot humidité et le mot humidité, ils ont la même racine. Alors on est face à cette tourbière donc, qui est tranquille, parce que là, les humains ont fait un boulot très simple, arrêter de biotope, donc on te protège.
C'est ça, on protège, et on n'y va pas.
Non.
Par contre, on avait quand même une entrée de gens qui se baladent, et on a essayé de faire un chemin périphérique, on ne rentre pas dans la tourbière,
non.
Avec tenir les chiens en laisse et compagnie. Et je me dis, cette tourbière, elle entend résonner les pas des gens, la voix des gens, mais elle ne pénètre pas, elle les voit, elle est restée. Mais à des moments très tranquilles, on a des phases dans la journée ou dans la saison, puis ensuite, c'est la tranquillité totale. Et là, pour se ressourcer, rien de mieux, on s'assoit.
C'est tout.
Et on regarde.
Ouais. Quelques sommets des Bauges, là, au loin,
oui.
C'est tout.
Alors, un peu plus loin, on voit aussi le Mont-Blanc et puis les Hautes-Bauges, là, un petit peu plus loin, sur la partie droite. Et là, il n'y a besoin de rien.
Non.
Est bien.
Alors, Maryse Fabre, donc, vous êtes, on dit Madame la Maire, hein, Madame la Maire, donc, de Saint-François-de-Sales. On est à 1300 mètres d'altitude. Et ce qui est intéressant aussi, c'est votre adaptation humaine. Sur cette station qui va évidemment manquer de neige de plus en plus, on le sait, vous aurez des années à neige, vous en aurez moins, etc. Ça a été quoi l'histoire et surtout comment on se projette ? Parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens, 1300 mètres, hein, je le rappelle. Lieu formidable d'ailleurs pour faire du ski de fond, mais c'est quoi un peu l'histoire au départ ?
Alors le ski de fond, il a 40 ans. Hein. Les habitants de Saint-François voyaient partir tous leurs jeunes qui allaient en ville. Et à un moment donné, ils se sont dit qu'il faudra peut-être quand même continuer à faire vivre ce village, mais d'une autre façon.
Donc ils ont pensé d'abord au ski alpin.
Au ski alpin.
Mais ça n'a pas duré longtemps.
Non. Et puis après, au ski de fond, parce qu'il y avait d'autres territoires à proximité qui s'y lançaient. Donc ils se sont lancés dans cette ski de fond, à tracer un peu des pistes, un peu dans la forêt, pour faire ce ski de fond, et qui a amené à la construction d'un foyer de ski de fond, parce qu'en fait, ce nom foyer veut bien dire que rassemblait les gens qui apprenaient à faire du ski de fond. C'était une initiative. Ça fonctionnait. Personne ne savait comment faire.
Et puis c'est de la chaleur humaine, hein, au sens propre comme au sens figuré, le foyer.
Tout à fait, les gens se retrouvaient pour parler de cet endroit. Et puis quand ils sortaient ensemble, en famille, avec le pique-nique dans le sac à dos. Puis ils revenaient manger une soupe chaude au foyer, et puis se retrouvaient pour louer les skis, et puis pour expliquer comment ça devait fonctionner, ainsi de suite. Ça a duré quelques années.
Et puis la consommation, donc là, est arrivée, j'allais dire, on consomme maintenant le ski de fond différemment.
Alors on consomme le ski de fond différemment, parce que c'est devenu beaucoup plus sportif. Donc on vient pour 2 heures, pour 3 heures, des agglos, on garde sa voiture, on se change, on change dans sa voiture, on saute, on fait du ski, alors là vraiment très sportif, puisque maintenant on a le skating, hein, un peu de l'alternatif, mais surtout le skating, on fait sa boucle, on regarde surtout que les pistes soient bien damées, que tout soit bien.
Puis on repart.
Et puis on repart, on remonte dans sa voiture, une douche, et on retourne au travail. Du coup, c'est ce changement-là aussi qui fait que c'est de la consommation. On consomme la nature, c'est un peu partout, un peu comme ça. On consomme, on est un peu des consommateurs.
Thierry, viens m'aider, s'il te plaît. Ça marche pas, le volet.
Mais si, laisse-moi faire.
Ils se sont bien foutus de notre gueule.
Bon, ça a l'air propre. Oh, crotte pour le lit dur.
Non, c'est moi. Bon, je suis tout seul.
Ah, voilà. Il va falloir pas manger trop de raclette si on veut passer là.
Maman!
Qu'est-ce qu'il y a, mon chéri?
Y a pas de wifi, hein? C'est quoi ce plan là?
Bon, Kevin, on a d'autres problèmes, on s'en fout de ton wifi.
On s'en fout du wifi?
Non, mais ça va pas, je vais pas au Moyen-Âge, moi. Hein.
Non, mais maman, le wifi, c'est comme l'oxygène, quoi. Si on a pas, tu meurs.
Et nous, en 2016, on s'est dit, la neige, ça va pas durer. Alors qu'on avait encore des belles saisons d'hiver. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? On n'aura jamais de neige artificielle, et en particulier, on n'en voulait pas. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on a dit, on va peut-être essayer de trouver des solutions. Cette porte qui s'appelait Porte Nature, on a des valeurs à développer. On a une forêt magnifique, 900 hectares d'un seul tenant. Oui, ouais. Qu'on peut mettre aussi valoriser, expliquer comment on peut l'exploiter, comment on peut la laisser tranquille, comment on fait pour la gestion de cette forêt, qui est quand même un apport financier pour la commune, il faut dire ce qui est.
Vous êtes une commune forestière.
Et puis, comment on peut reconnecter les gens qui viennent et qui consomment à faire changer les paradigmes et dire, ben voilà, asseyez-vous, prenez le temps de regarder, on va vous expliquer comment ça fonctionne.
Donc vous avez créé une base, on va dire, écologique.
Voilà. Du coup, on s'est dit qu'on allait être une porte nature. On appelle ça maintenant le plateau nordique, parce que nordique, c'est pas seulement ski nordique, ça a des allures nordiques, puisqu'on a une tourbière, parce qu'on a des choses de ce type, Saint-François-de-Sales. Et on peut venir en hiver, on peut faire du ski de fond quand il y a de la neige, et quand il n'y a pas de neige, eh bien on peut voir ces boucles thématiques, voir comment on exploite la forêt.
Soleil couchant. Oh, contempler le ciel, et dès qu'a fui le jour, en tout temps, en tout lieu, d'un ineffable amour regarder à travers ses voiles. Un mystère est au fond de leur grave beauté. L'hiver, quand ils sont noirs comme un linceul. L'été, quand la nuit les brode d'étoiles.
Je vois pas très loin aussi une coupole astronomique.
Oui. Il y a déjà plus d'une dizaine d'années que cette coupole a été à l'initiative de mes prédécesseurs élus et qui ont dit, mais il y a le ciel ici est pur, il n'y a pas de pollution lumineuse, on peut aussi admirer le ciel. Donc il y a cette coupole qui est venue s'installer là avec une lunette astronomique et puis on peut regarder les étoiles, on peut regarder la lune, les astres et on peut aussi regarder le soleil puisque maintenant on a des lunettes pour regarder le soleil.
Alors, trame bleue, trame verte, mais aussi trame du ciel, je ne sais pas comment on l'appelle, trame blanche peut-être.
Oui. Et on a comme thème un peu fil conducteur de tout ça, c'est la lumière. Alors la lumière, il la faut dans la forêt pour que les arbres poussent, pour que dessous les petits poussent aussi, pour que toute la biodiversité s'exprime. Et puis on l'a aussi dans le ciel, bien évidemment, hein, la lumière, les astres, le soleil. Et puis on l'a aussi dans la tourbière, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'elle est privée de lumière. Et c'est comme ça qu'elle est riche, donc sans la lumière. Et voilà, et c'est un peu tout ça qu'on veut mettre en musique, hein, c'est en train de se bâtir. Et justement, quand on regarde le ciel, on est obligé d'être humble, parce qu'on est poussière quand on regarde ça. Et quand on regarde la tourbière qui a vécu sa vie sans intervention de qui que ce soit, on se dit, ben voilà, elle a mis des stratégies en place, c'est une richesse de flore et de faune très particulière, elle a fait ça tranquillement, sans bruit. Et elle est là aussi pour nous parler de cette humilité, mais de cette richesse. Et puis la forêt, bien sûr, qui est splendide avec ses arbres magnifiques.
Restez avec nous, parce que vraiment, à la fois cette tourbière, mais ce lieu, donc c'est beau, je mérite quand même quelques minutes supplémentaires.
Parfois, je préférerais être un arbre en Normandie, dans une prairie. Devant la mer bleue, je sentirai le vent dans mes cheveux qui joue au coiffeur quand il veut. Mes cheveux, je les perdrai en octobre et je les retrouverai en mai. Comme les amoureux, les enfants y construiront des maisons que les ouragans emporteront alors qu'ils seront dans leur lit à réciter leur poésie qu'ils n'ont pas apprise. Parfois je préférerais être un arbre en Normandie, en plein jour J. Il y a 60 ans, parfois je préférerais être un arbre en Normandie. Mais je suis ici pour cette fois-ci.
Un petit hommage à Jean-Guy Denis, donc un arbre en Normandie. Nous, nous retournons dans ces Bauges. Nous sommes en Savoie, dans ce parc naturel régional des Bauges. Alors, vous avez le Haillon, vous avez le Châtelard, les Chrennes, les Écoles, les Chaux, que sais-je. Vous avez aussi Gruffy, commune de Hédy-Sevestre, hein, qui n'est pas loin du tout. Et puis le Semnose, et là, Saint-François-de-Sales, avec donc cette mère, Maryse Fabre, qui adore son coin. Nous sommes pas loin, toujours de la tourbière des Creusates. C'est super, nous sommes à l'adret, au droit du soleil.
Est-ce qu'aujourd'hui, il y a maintenant, j'allais dire, une dignité supplémentaire, une fierté d'avoir cette tourbière ?
Alors oui, parce qu'au début, c'était mal compris.
Ouais,
pour eux, ça n'avait pas de valeur.
Non, non.
Alors, ils la défendaient, je leur disais, écoutez, vous n'avez pas un puits de pétrole. Vous défendez quoi ? Votre bout de terrain, d'accord, mais regardez, vous allez avoir quelque chose de tranquille sur vos parcelles. C'est formidable, c'est des intérêts convergents. Même s'ils ne comprenaient pas la valeur patrimoniale des choses, la valeur du biotope, ça, c'était difficile pour eux, malgré tout. C'est quand même grâce à tous ceux qui sont venus là autour qu'on a ça. Alors elle a fait son boulot, mais ils l'ont laissé, ils l'ont respecté, les anciens qui étaient là. S'ils avaient fait n'importe quoi, ils auraient pu l'exploiter aussi, cette tourbière. Mais c'est grâce à eux aussi qu'on a eu ça. Réjouissons-nous. Et le sentier touristique qui balise la tourbière n'était pas dans l'ordre du jour au départ. Ils voulaient pas. Et puis ensuite, ils ont vu que ça fonctionnait bien. Ils ont tous accepté des conventions de passage sur leur terrain.
D'accord.
Sans discussion. Il n'y en a pas un qui est revenu en arrière sur cette question-là. Je trouve que ça, c'est une belle réussite aussi d'endroits apaisés. Non seulement l'endroit est paisible, mais les gens qui sont autour sont paisibles et apaisés dans la gestion de cet endroit. Il n'y a pas de conflit. Souvent, ils nous disent « ça nous coûte des sous ». La mobilité en Bauges, ça nous coûte des sous. L'eau en Bauges, ça nous coûte des sous. Et parfois, moi, je dis, quelle valeur, vous parlez d'argent, quelle valeur vous donnez à nos territoires le temps que nos anciens ont cultivé ces forêts, ont mis de l'énergie extraordinaire pour ça, pour la beauté de ces paysages, pour la conservation de ces habitats qui ont tenu tout
aujourd'hui.
Ça en vie, dont vous profitez aujourd'hui. Quand vous nous parlez comme ça, vous nous insultez, quand vous nous dites qu'on coûte de l'argent. Non, mais essayez de comprendre qu'il y a une solidarité à avoir avec nous. On n'a pas les moyens financiers, mais quelle valeur vous donnez à ça, à ce travail de génération ? Quelle valeur vous donnez ? Souvent, je n'ai pas de réponse. Souvent, je n'ai pas de réponse parce que ce n'est pas une question qu'ils se posent.
Non, parce qu'ils ont une grille économique dans la tête.
Voilà. Et nous, on dit, mais cadeau, cadeau, aidez-nous. Aidez-nous dans la mobilité, aidez-nous à ce que ça continue de vivre comme ça. Ce n'est pas qu'on veut du développement, on n'est pas dans cette idée-là.
Alors là, c'est bien parce que c'est une partie qui peut être un peu exploitée, mais pas trop, quoi.
Non, pas trop. Il y a des normes. Hein. Il ne faut pas rester très longtemps. Il faut quelque chose d'extensif. Hein. Ça, il n'y a qu'une partie de l'été où il peut venir. Hein. Dernière quinzaine de juillet avec des bêtes. Ouais. Et ensuite, il ne revient pas. Mais pour protéger aussi ces parties un peu particulières, qui sont les buttes à sphènes qu'on voit bien, c'est des grands coussins, les bêtes ne les mangent pas, mais les piétinent. Donc du coup, le parc a posé des exclos de manière à conserver ces buttes de sphènes et qu'elles continuent de vivre.
Oui, donc
de...
ça entoure.
Il y a aussi encore une partie qui est sur le bassin. L'arrêté, il est aussi déjà là, hein. On l'a jusque là. Mais par contre, la partie où on ne peut pas aller, c'est là-bas. Et ici, les bêtes peuvent venir, mais là aussi, il y a des buttes à sphènes qui vivent. Ouais. Donc il faut continuer de les faire vivre... dans l'arrêté de biotope, même si elles ne sont pas dans la partie la plus protégée.
Et ce qui vit très bien, ce sont les chardons. Alors on imagine bien que notre chardonneret dit élégant.
Ah oui.
Il est toujours. Il doit se régaler ici.
Ah oui, là, il se met sur les sommets, là, et puis il picore les graines, là. C'est trop beau. Wow. On se régale.
Et hop là, ça y est, il y en a un qui approche. Ouais. Allez, du rouge, du jaune, ouais, c'est vrai qu'il est beau, il est pas à côté de nous, mais... vas-y, fais ta vie, va, allez. Et allez sur le chardon, il va voir s'il reste ou pas, il reste plus grand-chose, il va repartir ailleurs. Mais alors, est-ce qu'il y a des choses qui vous plaisent plus? Là, on est à la fois dans du forêt de feuillus, forêt d'épicéas, ces prés, ces rotondités, c'est pas de la montagne qui vous tombe dessus, hein, les Bauges, donc c'est du 2000 mètres, voilà, donc...
Mais moi, ce que je trouve beau, ici, c'est que justement, on a ces formes arrondies, apaisantes, cette tourbière qui... Et puis, au loin, quand on va un peu plus loin, on a les sommets blancs, les montagnes qui sont dans nos horizons. Ben, ça nous appelle à aller plus loin, à aller plus haut, à regarder plus loin que notre horizon. Je vis là depuis tout le temps. Il n'y a pas un matin où je dis « c'est beau ». Pas un matin où je me réveille, je m'arrête et je dis « stop, faut qu'on regarde ». Tellement beau. C'est pas des endroits spectaculaires, mais c'est des endroits apaisés. Oui. Et c'est aussi pour ça, peut-être, que les gens viennent nous visiter, là. Ils se promènent en toute tranquillité. On les voit, il y a quelques voitures, mais il y a des gens qui marchent à pied. C'est pas abrupt, c'est pas caillouteux, c'est pas agressif. C'est peut-être aussi un bon moyen de les réconcilier avec le silence, l'écoute. Regardez. On a oublié de regarder, on a oublié d'écouter. Moi, je m'assois là-bas sur le banc, à côté de mon petit chalet, là. Et cette année, il y avait des oiseaux. Plein partout. Mais il y en avait, on n'en trouve pas ailleurs, là, il y en avait plein. Je me suis mis à écouter leur chant, à savoir comment ils chantaient, à les regarder. Ben, c'est des heures. Mère, c'est pas facile, jamais personne n'est content. Et on ne nous dit jamais merci, mais ça, on le sait d'avance. Oui, hein. Moi, j'ai été 30 ans secrétaire de mairie, donc je connais l'affaire, je savais que ça serait comme ça. Et des fois, quand ça pèse un peu, quand même, des fois, il y a des tensions et compagnie. Je viens, je m'assois là, silence.
Et vous êtes bonne combattante, quoi, on va dire.
Oui, oui, c'est ça.
Mais vous êtes aussi une combattante de la vie, c'est ça le truc.
Oui, 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 oui. Ah oui. Je me dis qu'on va trouver des solutions, je me dis qu'il faut aller de l'avant, qu'il faut croire en ses rêves, hein, puis aller au bout de ce qu'on veut, sans jamais rien lâcher, même s'il y a des bons contraires. Aussi, on fait des belles rencontres. C'est-à-dire qu'on n'est pas tout seul. Quand on parle comme ça, quand on rencontre des gens, il y a des gens qui nous apprennent. Moi, j'ai jamais tant appris depuis que je suis élue, quoi. J'ai croisé des gens formidables qui m'ont... ouvert des horizons que j'aurais pas imaginé d'ouvrir. J'étais 30 ans secrétaire de mairie, j'étais plus dans l'administratif, mais là, c'est pas pareil. Il faut prendre des décisions, il faut élargir son horizon, il faut moduler ses ardeurs, il faut savoir perdre pour pouvoir gagner, il faut savoir ce qu'on doit lâcher pour pouvoir aller plus loin avec les gens. Mais ça s'en prend sur le tas.
Il faut être aussi très psychologue et savoir comment pense l'autre.
Toujours. Voilà, et puis l'expérience fait qu'on arrive à avancer quand même.
Ouais.
Et c'est ça qui fait la beauté, enfin, c'est ce que je trouve. Hein. Bien sûr, on a les chiens qui aboient, les coqs qui chantent, et les gens qui ne sont pas contents.
Et les cloches, on voudrait leur couper les cordes vocales.
Et que, voilà, on n'a pas fait le boucher le trou, et machin. Ça, bien sûr, tout le monde l'a, ça. Mais si devant, on a des projets, et qu'on les porte au bout, avec une équipe hein, qui fonctionne avec ça, voilà, c'est trop fabuleux.
Parmi vos voisins de palier, vous...
Je t'arrête tout de suite, je n'ai plus de voisins de palier. Éliminé, dénoncé, lettre anonyme à la mairie, allez, hop, hop.
Vous montrez bien que, en fait, il n'y a pas de communes ou de territoires qui sont déshérités. Il y en a qui sont plus favorisés que d'autres, ça on le sait. Mais il y a plutôt des territoires qui sont sans projet. Mais dès qu'on a un projet, ça marche, quoi.
Mais oui. Oui, il faut le porter avec ses convictions. C'est vrai que quand j'ai voulu convaincre, j'ai pas pris de papier et fait une tirade très stratégique, ni très... Mais je parle avec mes tripes et avec mon cœur, et ça marche.
Donc, qu'est-ce que l'on peut dire sur la stratégie ? Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais enfin bref. En tout cas, le cap que vous souhaitez donner donc, à cette commune, avec vos habitants.
Qui développe cet esprit d'habitation paisible, partagée. Et quand ils ont quelque chose à dire à leurs voisins qui ne viennent pas chercher le maire, qui commencent à reparler avec leurs voisins, qui apprennent à vivre ensemble. Ça, c'est le plus difficile. En se servant de cette nature qui sont autour d'eux, qui... à portée de main et qui doivent se réjouir tous les jours de pouvoir bénéficier d'un tel endroit. On doit être positif dans ça, on ne doit pas voir que les petites choses négatives de la vie. Bien sûr, tout le monde en a, mais là, on peut se dire quand même, allez, ça va aller. On ne va pas s'arrêter à cette peccadille, on va faire communauté. C'est le plus difficile. Cette question, les gens sont là depuis 10 ans. Et la question qu'on pose, on dit, vous êtes d'où, vous ? Oh ben moi, je suis de Paris. Mais vous habitez depuis 10 ans là. Eh bien, moi, je vous dis que vous êtes d'ici, puisque vous avez décidé d'y vivre. Vous êtes d'ici. Quand on vous posait cette question, s'il vous plaît, ne répondez pas. Moi, je ne suis pas d'ici, je suis de Paris ou de Bretagne. Je sais pas. Dites que vous êtes ici, vous avez choisi d'être ici, vous êtes d'ici. Et là, ils ouvrent les yeux comme ça, ils disent, c'est quelque chose qu'on ne nous a jamais dit. Mais oui, faites-le. Faites-le, vous êtes d'ici.
Toutes ces images qu'on nous montre, ces horreurs qu'on nous raconte, ce grand robinet à douleur pour nous plomber le cœur, qu'on en oublie que le monde est si beau et que l'amour est un sacré cadeau. La vie, quel joli mot, la vie, quel joli mot, la vie.
Alors, il y a la question, justement, de l'appartenance à ce territoire. Alors, à partir de quel moment, donc, on appartient à ça, quoi ?
C'est justement quand on répond à la question « Vous êtes d'où ?», vous répondez « Vous êtes d'ici ».
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant, Maryse ?
Eh bien, que ça continue, bien sûr. Et que ces choses auxquelles on croit, cette volonté de préserver et de faire vivre et comprendre qu'on est la nature, on n'est pas à côté, on ne domestique pas la nature, ça, c'est le principal. Moi, je pense qu'il faut qu'on aille dans cette voie le plus possible et qu'on mette les outils en marche pour que ça pénètre les esprits et puis que les gens prennent la suite. J'ai un certain âge, et il va falloir que d'autres prennent la relève.
Merci à vous et puis au revoir Maryse Fabre.
Et au revoir Denis et bonne route.
Dans vos Bauges.
Oui, oui, bien sûr.
Eh bien oui, parce que c'est un lieu pour les marcheurs et aussi pour les cyclistes. C'était donc un bout de Savoie, un bout de PNR des Bauges, un bout d'envie distillée par cette combattante de la vie et de la nature, donc Maryse Fabre. Merci à elle. Je vous signale que vous avez eu un numéro de Alpes Magazine qui est sorti il n'y a pas longtemps justement sur ce massif des Bauges. Merci à Marie Potier d'avoir mixé ce reportage, à Camille Blanès, à Xavier Pessugia qui a colorisé, sorti les musiques et tout et tout et tout. Bref, qui a réalisé l'émission. Et puis la semaine prochaine, je vais vous emmener... Oh, on va rencontrer deux B, le buffle et le bousier. Oui, ça va être une très jolie fable. On va être sur l'étang de Cousseau. En Gironde, Instagram, LinkedIn, Blue Sky, l'application Radio France. Ne vous gênez pas, vous avez les éditos d'un côté, vous avez CO2 Mon Amour de l'autre. Et là, vous savez à peu près tout. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de dimanche.